À Marseille, l'été s'annonce et cette année, en 2022, on voit ressurgir des événements dans les espaces publics permettant la culture et les loisirs pour tous et toutes, et notamment les habitants et habitantes ne pouvant pas partir en vacances. La mairie centrale et les mairies de secteur organisent l'été marseillais. Voyons voir comment cela se décline dans le 1er et 7e arrondissement.
Je suis Agnès Fréchel, je suis adjointe aux cultures et aux mémoires du premier secteur de Marseille.
Et ce premier secteur, mairie 1 et 7, s'inscrit dans le programme l'été marseillais. Qu'est-ce que vous proposez pour cet été ?
Pour cet été, on propose, comme l'année dernière, les spectacles avant le soir, qui sont des petites formes dans les parcs, faites exclusivement par des compagnies marseillaises. Cette année, ce sera 13 compagnies marseillaises qui nous proposent 38 spectacles, concerts et spectacles de théâtre. C'est une programmation assez militante. Les artistes sont jeunes, les équipes sont paritaires. Et ça peut parler des femmes porteuses du VIH, de la désobéissance civile, de la psychiatrie comme déconiatrie. C'est joyeux, festif et intelligent.
Je suis Renaud-Marie Leblanc et je suis metteur en scène et directeur de la compagnie Didascali & Co.
Compagnie qui crée des spectacles mais qui aussi va coordonner ces événements multiples avant le soir avec la mairie 1 et 7.
Oui, en fait, c'était un marché public et la compagnie l'a remporté. C'est la deuxième année. Et en fait, du coup, je suis responsable de la programmation, la compagnie est responsable de la programmation. Donc, pour la première fois, c'est des artistes qui programment d'autres artistes.
Et ces 13 compagnies qui sont programmées, comment est-ce que vous avez fait ce choix-là de programmation ? Est-ce qu'il y a un fil rouge qui tisse un lien entre tous ces spectacles ?
Alors, il n'y a pas vraiment de fil rouge, sinon que j'avais envie, moi, d'offrir aux Marseillaises et Marseillais qui sont présents, puisque c'est quand même beaucoup du théâtre de proximité, des petites formes, des choses comme ça inventées dans l'instant, qui ont plus à voir, je dirais, avec le dessin au fusain, vous voyez, d'un trait comme ça qui est jeté, que le grand tableau, etc., qu'on peut voir dans des salles, des programmations importantes et dont on a besoin. Là, j'avais envie comme ça de petites formes comme ça. Donc, c'était quand même, moi, j'ai sollicité d'abord des artistes que je connaissais, qui sont tous Marseillais, hein, qui vivent à Marseille, qui des fois jouent ici ou jouent moins ou tournent ailleurs, et de dire s'ils avaient déjà envie, eux, d'aller dans les parcs et jardins, parce que c'est quand même difficile. Hein, la ville n'est pas arrêtée, c'est des instants comme ça un peu arraché au réel, donc il faut des artistes qui ont envie déjà de faire ça. Et ensuite, moi, j'ai essayé de travailler sur des gens qui ont tous une identité assez forte, en fait, qui font un travail soit de recherche, soit sur du texte contemporain, soit un travail social avec des femmes comme dans Encore Heureuse, soit des musiciens qui ont vraiment une identité musicale ou des instruments insolites comme la harpe par exemple, qui est un instrument qui a un répertoire très particulier, ou des musiciens comme le mandoliniste Vincent Bert de Mondeur, qui lui-même défend sa mandoline, un répertoire pour mandoline de manière absolue, avec un pianiste qui adore la musique de film. Donc voilà, c'était une identité comme ça. À chaque fois, ce que j'ai essayé, c'est de... Je me suis dit, s'il faut que si les gens viennent dans le parc et ont envie de tout voir, tous les soirs, c'est le même parc, mais rentrent dans un univers qui n'a rien à voir. C'est un peu ça qui m'a conduit, en fait.
Alors, c'est des formes théâtrales et musicales qui ont dû s'adapter à 3 lieux différents. Est-ce qu'on peut les rappeler et c'est quoi la particularité de ces lieux-là ?
Dans le premier, il n'y a qu'un seul lieu parce qu'en fait, la mairie du 1-7 n'est pas très riche en espaces verts. Quand on habite en centre-ville comme moi, on le sait. Donc, c'est plus des squares ou des petits lieux que des parcs et jardins. Donc, dans le premier, c'est le square Labadie qui est un petit peu entre les réformés et la gare.
Aussi appelé la Rotonde.
Exactement. Les Marseillais le connaissent mieux sur la place de la Rotonde. Qui est donc quand même un square fermé avec des grilles, mais presque une place publique avec 4 arbres et entouré quand même de la route. Ce qui veut dire que là, c'est sa spécificité, que c'est la circulation n'est pas arrêtée. Donc vraiment, c'est comme une enclave qui a vraiment une vision à la fois sur la ville. Voilà, c'est assez surprenant parce que là, on a un public très très différent de proximité qui vient et des fois, il faut se battre avec les bruits de la ville, mais ça fait partie du jeu. Et dans le 7e, il y a 2 lieux différents. Donc il y a le square Bertie-Albrecht qui est devant Saint-Victor, juste devant l'église de Saint-Victor. Victor, vous avez l'esplanade devant et il y a un petit bout de jardin avec quelques vignes, puis il y a de la terre battue. C'est une enclave assez jolie, avec une vue absolument incroyable sur le port et sur les murailles de l'église. Moi, à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est les murailles de Troie, quelque chose d'assez ancestral qui nous surplombe et qui a une spécificité difficile, c'est qu'il est exposé plein vent. Donc dès qu'il y a un brin d'air, on est vraiment dans Marseille venteux, on a l'impression qu'on est en mer d'un coup brusquement, puisque c'est en hauteur et il n'y a rien qui arrête le vent, ce qui crée aussi une consonance assez spéciale à tout ce qui peut se jouer là. Et le troisième, c'est aussi dans le septième, c'est le jardin Benedetti qui se retrouve derrière le front de mer entre les Catalans et le vallon des Auffes. C'est coincé entre le front de mer à cet endroit-là et la falaise de Samatan. Et là, il y a un vrai jardin en fait que moi je connaissais pas, qui est assez enclavé, qui est avec des jardins d'enfants, un petit chemin qui monte, un terre-plein en haut. Et là, c'est un jardin plutôt très bucolique, refermé sur soi-même, donc par rapport aux autres, très très calme, qui est isolé du reste de la ville. Et il y a des buissons autour, etc. Et on arrive à créer ici vraiment une ambiance plus intimiste. Donc c'est en plus trois lieux totalement atypiques, qui n'ont pas du tout le même rapport avec la ville. Ça aussi, c'est assez enthousiasmant.
Avant le soir, c'est des propositions qui sont gratuites. Et vous soutenez, ou en tout cas aiguillez aussi une programmation au Théâtre Sylvain, dans le but que la culture soit accessible par tous, pour tous. Donc c'est un peu votre fer de lance aussi de la mairie Inset, que de proposer une culture plus accessible.
Je ne sais pas si c'est une culture plus accessible. Je ne sais pas si la culture elle-même est plus accessible. On propose des modes d'accès. Effectivement, en allant faire des spectacles dans les petits parcs de proximité, chez les gens, en proposant des formes gratuites, on travaille sur l'accès à la culture. Ce n'est pas les formes qui s'adaptent, même si on demande aux artistes d'avoir des formes qui sont immédiatement compréhensibles et surtout un contact direct avec le public. C'est pas les formes qui s'adaptent, c'est plutôt l'accès en fait, la manière de travailler, d'aller vers vraiment. Au Sylvain, la programmation est une programmation d'accueil pour la plupart des propositions, une programmation qui permet au festival du territoire de venir dans ce magnifique amphithéâtre de 2300 places et de profiter de cet environnement. On leur demande aussi de réfléchir à l'accès, c'est-à-dire en particulier d'offrir des places solidaires aux personnes en difficulté sociale. Ce qu'ils font tous très volontiers, et ce qui change la nature du public et la mixité du public très nettement depuis 2 ans.